Exactement. Vas-y.
Oui, en 1772, il y a la désécration par Charlemagne du plus vieux et du grand centre de culte solaire nord-européen. Ce qu'on appelle en allemand les Externsteine, à 1 km de Horn. Horn est à quelques kilomètres de Detmold. Ce sont 5 grands rochers verticaux qui barrent la route et qui étaient, je pourrais les décrire, mais je n'ai pas le temps de les décrire maintenant. C'était un centre de culte solaire, surtout de culte en général, de culte des dieux germaniques. Il y avait là des Irminsul d'or, paraît-il. C'est-à-dire une espèce de grand tronc vertical avec une pointe dirigée vers l'étoile polaire et puis deux branches sur lesquelles devait reposer le cercle du zodiaque, symbole astronomique. Charlemagne avait détruit ça. Il y avait une espèce de petite chambre du soleil, on appelle ça. Un endroit particulièrement sacré, avec un toit sur un des rochers, le deuxième. Et il a fait mettre de l'eau, creuser une rigole et mettre de l'eau tout autour du toit. Au mois de décembre, l'eau est devenue de la glace. La glace est forte. Le toit a été jeté par terre. Il en envoie encore des morceaux aujourd'hui. Enfin, tout ça. Et puis, prêcher le christianisme naturellement par le fer et par le feu. Et les Saxons ont défendu la religion et l'âme germanique. Witukind était leur chef. Witukind a combattu 30 ans contre l'invasion de Charlemagne et du christianisme. Il a fini par être vaincu. Il est mort à Attigny. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais absolument tout ce qu'il a pu. Il avait épousé la fille du roi du Danemark, un autre grand païen de l'époque, et qui l'a aidé. Mais même tous les deux ensemble, ils n'ont pas pu briser la force des Francs. Les Francs avaient l'habitude de combattre, il y avait déjà 200 ans à peu près. Qu'est-ce que je dis 200 ans? Depuis Clovis, ça fait 400 ans qu'ils étaient en Gaule, qu'ils s'étaient établis en Gaule. Et là, ils avaient combattu les Romains, ils avaient combattu même les Huns. Enfin, ils avaient l'habitude de combattre des forces formidables. Les Saxons se sont révoltés plusieurs fois sous Witukind. Witukind a fait tout ce qu'il a pu, comme je l'ai dit. Les Francs, Charlemagne, a réuni à Ferden, sur les bords de la rivière Aller, en 782, 4 500 chefs germains prisonniers. Prisonniers de guerre, qui avaient eu le malheur de justement de ne pas pouvoir se faire tuer au combat. Il les a réunis là sur les bords de l'Aller et après une très grande messe solennelle avec évêque et archevêque et toute la splendeur qu'ils pouvaient déployer, le bourreau leur a tranché la tête un à un. Ça devait être un spectacle horrible. Je m'imagine 4 500. Eh bien, je dois dire que sous le Troisième Reich, avant-hier, c'est-à-dire hier, sous les ordres de Himmler et naturellement du Führer, on a dressé dans ce même bois où les martyrs de la religion germanique ont péri en 782. 4500 pierres verticales de chaque côté des sentiers, dans le bois même, et ces pierres y sont toujours. Je les ai vues il n'y a pas tellement longtemps, il y a une dizaine d'années, la dernière fois que je suis allé dans le nord de l'Allemagne. Naturellement, aujourd'hui, on essaye de vous dire que c'est tout pas vrai, que les chrétiens de Charlemagne n'ont pas fait une chose pareille, c'est une légende, c'est pas une légende du tout. Et je connais des Allemands d'aujourd'hui qui vont voir en pèlerinage à Verden. Verden, c'est l'endroit, c'est la ville la plus proche, et l'endroit où les 4500 ont été tués s'appelle Sachsenhain, le bois sacré des Saxons. Je connais une famille, plusieurs familles, qui vont tous les ans en pèlerinage. Une famille en particulier, le père, la mère, les deux filles et le chien. S'y vont toutes les années. L'Allemagne nationale socialiste a gardé tous ses souvenirs. Et je veux parler après, n'est-ce pas? Bitukind a été vaincu, malheureusement. Plutôt ciel qu'il a été vainqueur. Et malheureusement, c'est pas seulement lui, c'est Saxon qui a été vaincu. Mais dans sa défaite, il faut compter toute l'Europe du Nord. Parce que c'était la porte ouverte à la christianisation de la Scandinavie et de l'Islande, qui a été christianisée après l'an 1000, les deux. La Norvège a été christianisée autour de l'an 1000 avec le roi de Norvège, Olaf le Gros, ou Olaf le Saint, S-A-I-N-T. Il n'est pas plus saint que moi, mais enfin, on l'appelle comme ça. Et puis, c'était la catastrophe. Les Vikings ont résisté pendant longtemps à cette christianisation. Et je dois dire, parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire, que la famille de ma mère descend des Vikings. Le premier ancêtre de la famille Nash, la famille de ma mère, était un Viking du Jutland, du nord du Danemark, qui s'est amené en Angleterre avec son bateau, avec la proue en dragon, environ au début du Xe siècle. Et il s'est installé, il était un adorateur de Odin et de Thor, naturellement. Il s'est installé dans le sud de l'Angleterre, vers la pointe de l'Angleterre, en face des îles Scilly, où il a construit un petit fortin. Le promontoire, là, il y a un promontoire qui s'appelle encore Nash Point. Et de là, avec ses bateaux et ses guerriers, il rasait les côtes françaises et anglaises, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui françaises et anglaises de la Manche. Mettait le feu aux couvents et aux églises pour venger les dieux païens que Charlemagne avait, n'est-ce pas, détruits en pays germanique. Naturellement, au bout de plusieurs années, de plusieurs décades, sa famille s'est christianisée elle aussi, comme tout le nord de l'Europe. Mais Nash voulait dire, originellement, paraît-il, c'est ma mère et ma tante qui m'ont dit ça dans le temps, « under the ash », sous le frêne, c'est-à-dire sous le frêne Yggdrasil, le grand arbre sacré du Nord. Bon, cette parenthèse étant ouverte, je passe maintenant à mon dernier amour, ou si vous voulez, mon vrai grand amour, celui qui est né aujourd'hui, en 1889, autour de 6h18 de l'après-midi. J'avais toujours eu de la sympathie pour lui, avant de lui appartenir comme disciple. C'est-à-dire, dans le temps où il a commencé à agir en Allemagne vaincue de 1910-19 et 1920, son premier grand discours et la fondation du parti est du 24 février 1920. Moi, dans ce temps-là, j'avais 14 ans et demi. J'étais en France. Mais enfin, je lisais les journaux. Ils m'intéressaient. Et j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui s'agitait en Allemagne. Et pour détruire le traité de Versailles. Comme je considérais le traité de Versailles comme une infamie, eh bien, j'étais très contente. J'avais toute ma sympathie. Je donnais toute ma sympathie à cet Allemand. Et puis, il y avait en ce moment-là un conflit chez moi. Je ne voulais pas abandonner l'église orthodoxe grecque à laquelle j'appartenais. Mais je préférais toujours les dieux de l'ancienne Grèce aux dieux chrétiens. Ça, oui. Et puis, je m'accommodais d'une façon bizarre des deux. On me demandait pourquoi vas-tu à l'église si tu n'y crois pas. Je répondais par fidélité à Constantinople, par fidélité à la Byzance, à l'Empire byzantin. C'est 1000 ans d'histoire grecque. Je ne peux pas rayer ça d'un trait de plume. Puis, en attendant, je lisais les journaux. Je voyais les progrès de cet Adolf Hitler en Allemagne. J'ai vécu le putsch de 1923 à Athènes, pas en France. L'après-midi du 9 novembre 1923, j'étais même sur l'acropole d'Athènes. Et je regardais le coucher du soleil. Le lendemain, j'ai su qu'il y avait eu un putsch. Je l'ai appris, comme tout le monde, par les journaux. Et j'ai dit, dans la pension où je vivais, ma mère m'avait mis dans une sorte de pension de famille pour jeunes filles. Je n'avais, il me semble, que 18 ans. Et elle m'a laissée toute seule en Grèce. Alors, je ne voulais pas rentrer en France d'ailleurs. Je croyais faire des grandes choses en Grèce. J'étais bien déçue. Et j'ai dit le lendemain, dommage que ce putsch n'ait pas réussi. Ça leur aurait donné une bonne leçon à ces cochons. Voilà mon expression. Excusez-moi pour la vulgarité de l'expression. La directrice du home où j'étais, home pour jeune fille, m'a dit, mademoiselle Porta, qui c'est que vous appelez ces cochons? Je dis, les alliés, madame. Je les déteste pour leur comportement envers la Grèce pendant la guerre. Ils ont forcé le roi Constantin de partir et ils ont forcé la Grèce à rentrer en guerre contre son gré. Je les déteste. C'était fini. On ne m'a plus posé de questions, on ne m'a plus rien dit. Et moi, j'avais beaucoup de sympathie pour celui qui avait fait le putsch. J'aurais bien voulu qu'il réussisse. Uniquement parce que ça aurait été un embêtement pour les alliés. Je détestais les alliés plus encore que je n'aimais les Allemands dans ce temps-là. Mais naturellement, j'avais de la sympathie pour les Allemands. J'avais de la sympathie pour Vito Kind, au moins, pour les anciens Allemands, pour les champions de la région du Nord. Quelques années après, j'ai décidé de combattre le christianisme. À côté d'Hypatie, c'était mon rêve. Mais je voulais être honnête, je ne voulais pas le combattre sans voir son berceau. Et en 1929, en avril 29, je me suis jointe à un pèlerinage grec qui partait d'Athènes et qui, par bateau naturellement, allait en Palestine via Rhodes, l'île de Rhodes, et reviendrait 40 jours plus tard via Chypre. Ce qui m'a choqué, c'est les simagrées de toutes les personnes qui étaient au pèlerinage avec moi, dès qu'elles ont mis le pied sur la terre soi-disant sainte, la Palestine. Vous aviez ces vieilles que j'ai vues se coucher à plat ventre par terre, embrassant la terre, n'est-ce pas? Dire notre Jésus a passé par là, les apôtres ont passé par là, c'est la terre sainte. Je dis fichtre de fichtre, la terre sainte, qu'est-ce que c'est que ça? Pour des Grecs, la terre sainte, c'est la Grèce, c'est pas la Palestine. Pourquoi cette emprise à travers le christianisme, cette emprise juive sur toute l'Europe, depuis combien d'années? Depuis 2000 ans, pas 2000 ans exactement, la Grèce, les derniers Grecs païens, sont du 15e siècle. la Grèce s'est christianisée très très lentement. Mais enfin, en France, depuis le 5e siècle, vu le baptême de Clovis en 496. Bon, pourquoi se penser aux églises d'Europe, avec leurs très beaux vitraux, représentant des scènes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le sacrifice d'Abraham, ou bien des scènes du Nouveau, mais toujours des histoires de Youpin. Et je dis, qui c'est qui va nous délivrer de cette tyrannie spirituelle, bien pire que la tyrannie économique des Juifs? Et puis tout d'un coup, je ne sais pas quelle date c'était. Je ne sais pas si c'était le 20 avril ou si c'était un autre jour. C'était un jour d'avril. En Palestine. Quelque chose m'a dit Maximo. Maximo, c'est mon nom. Maxime Miani, en grec. On m'appelle toujours Maximo, on m'appelle toujours Maximo. Que tu es donc bête. Tu n'as donc pas compris. Cet homme, ce chef allemand, qui combat le traité de Versailles. Mais ce n'est pas son principal combat. Tu n'as pas compris ça encore. Son principal combat n'est même pas pour l'Allemagne. Il est pour toute notre race aryenne. Pour les Allemands, pour les Scandinaves, pour les Anglais, pour les Grecs, pour les Italiens, pour tout le monde. Toute l'Europe et puis même la partie aryenne de l'Asie, pour les Hindous qui sont de race aryenne. Son domaine s'étend de l'Inde à l'Islande. Tu n'as pas compris ça encore. Adolf Hitler, voilà l'homme qui veut délivrer notre race de l'emprise juive. Je dis c'est vrai. En réfléchissant, je dis c'est vrai. C'est très vrai. Ça ne m'a pas empêché d'aller assister aux cérémonies de la Semaine Sainte et de Pâques à Jérusalem avec les autres membres du pèlerinage, naturellement. Mais ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, si le Führer des Allemands, c'est ça qu'ils veulent, eh bien, il n'est pas seulement le Führer des Allemands, il est mon Führer à moi aussi. Heil Hitler. Voilà ce que j'ai pensé. Et ça, c'était en 29. J'ai écrit une lettre à ma mère dans ce sens. Ma mère n'était pas particulièrement impressionnée. Elle était même contre quand pendant la guerre, elle a vu des convois de juifs partir en déportation. Ça l'a impressionnée. Enfin, moi, ça me l'a laissé froide. Je ne les ai pas vus d'abord. J'étais aux Indes. Mais je les aurais même vus, ça ne m'aurait pas impressionnée. Elle, ça l'a impressionnée. Elle était une autre personne que moi. Et nous nous sommes séparés quand j'ai su, après la guerre, qu'elle avait été faire de la résistance. Elle n'en a pas fait beaucoup parce qu'elle avait 80 ans. En 45, elle est née en 1865. Et donc, elle a pratiquement fait rien du tout. Mais elle était du côté de la résistance. Et ça, ça m'a très choqué de la part d'une femme qui descendait des Vikings. Mais je n'y pouvais rien. En tout cas, ça ne m'a pas impressionné, moi, au point de m'ébranler de moins en moins du monde. Tant que j'ai connu l'œuvre d'Adolf Hitler, à travers ce qu'on en a dit, même après la guerre, ces soi-disant violences ne m'ont pas impressionné du tout. J'ai dit très bien, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Il faut bien faire quelque chose. Il vaut mieux ça encore que la domination spirituelle du peuple d'Israël sur tous nos peuples d'Occident. Après tout, qui sait? C'était le peuple le plus méprisé de l'Antiquité. De quel droit régnait-il sur nous spirituellement? C'est ça qui me choquait. Et naturellement, depuis 2 ou 3 ans, que je sais que les 3/4, sinon les 4/4, de toute cette propagande sont des mensonges, naturellement je le dis. Je sais qu'il n'y a pas de sombre à gaz, je sais que les camps de concentration c'était en somme des camps qui n'étaient pas plus mal que d'autres. Si les gens y ont souffert, ils y ont souffert pas à cause du Führer, ni même à cause des SS. Paul Racinier, le Français qui a passé 5 ans à Buchenwald, le dit très bien. Il dit les SS n'ont eu qu'un tort, c'était celui de ne pas intervenir quand les capots, n'est-ce pas, les les autorités du camp qui étaient élues parmi les prisonniers, par les autres prisonniers, faisaient des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. En particulier, voler de la nourriture, la vendre aux Allemands en marché noir et garder le reste seulement pour les camarades, tant pis si les camarades avaient faim. Les SS auraient dû intervenir, disait Racinier, mais enfin, après tout, ce n'était pas leur affaire. Ils avaient nommé des capots, ou plutôt, ils les avaient laissés nommer par les internés eux-mêmes. Donc, tout ça, c'est de la foutaise. J'ai eu l'honneur de voir personnellement, en entrevue, Thies Christoffersen, qui a été à Auschwitz plus d'un an, lui-même, non pas en tant qu'interné, mais en tant que technicien du caoutchouc artificiel, la Buna, qu'on fabriquait à l'aide d'une plante. Et il avait des internés sous lui, il cultivait cette plante. Il a vu Auschwitz. Il n'a vu aucune chambre à gaz, aucun appareil d'extermination. Et aucune, il n'a senti aucune odeur de brûlé, ni d'une odeur particulière, comme on pourrait en sentir dans un endroit où on brûle, où on a brûlé, paraît-il, 24 000 juifs par jour. Regardez-moi ces exagérations. Mais je recommande à tous ceux qui lisent le français de lire la splendide lettre de Léon de Grelle. Ils peuvent lire toute l'œuvre de Grelle, d'ailleurs. J'ai oublié d'en parler quand j'ai parlé des livres à lire. Voilà un auteur à lire, de Grelle. Le Waffen-SS de Belgique, qui est actuellement en Espagne. Il est interdit dans son pays. De Grelle, qui est très catholique, a écrit une lettre au pape polonais, à l'ex-résistant polonais, qui a le trône pontifical maintenant. Il lui a dit, n'est-ce pas mon père, mon très saint père, ne vous laissez pas impressionner par ce que les gens disent sur Auschwitz. Vous allez dire une messe à Auschwitz pour les morts qui sont là. Bien, je comprends qu'on dise des messes pour les morts, mais enfin, vous avez peut-être donné l'impression que vous croyez à la légende des 6 millions. Elle est particulièrement fausse. Et il le démontre. Il démontre, par exemple, en donnant des citations de gens qui croient à la légende, de combien de juifs il y avait de gazés, dans quel nombre de mètres carrés. Si on les croit, on aurait gazé, on aurait mis sur un mètre carré plus de 30 personnes. Or, c'est matériellement impossible. 30 personnes ne tiennent pas dans un mètre carré, même si on les met les unes sur les autres. Mais il y a des gens qui croient n'importe quoi. Enfin, c'est pas ça qui m'a impressionné dans l'œuvre du Führer. Ce qui m'a impressionné surtout, c'est son retour à la nature, son retour aux valeurs antiques, son retour aux valeurs éternelles, pas seulement antiques, mais éternelles. Peut-être les historiens de l'avenir vont-ils le critiquer, les historiens même allemands, et vont-ils dire pourquoi n'a-t-il pas tué tout le corps expéditionnaire britannique à Dunkerque quand il le pouvait? Pourquoi n'a-t-il pas anéanti l'Angleterre? Pourquoi lui a-t-il tendu la main une quinzaine de fois, pensant qu'elle prendrait la paix? Pourquoi la considérait-il comme la nation sœur, parce que c'est un peuple arien? Il aurait mieux fait d'être différent. Moi, je dois dire, quand il a dit, vous trouvez ça, je crois que c'est à la page, je ne me rappelle plus combien, 225, je crois. Mais j'en suis pas sûr, ne le croyez pas. De Mein Kampf. Après la première guerre, je décidais alors de devenir politicien. Il n'a jamais été vraiment un politicien. Il était beaucoup plus que ça. Je le comparerais à un prophète. En Inde, j'ai rencontré Swami Satyananda, le fondateur de la Hindu Mission, un sadhu, un moine hindou, à robe jaune, qui, quand il m'a demandé si j'avais un maître hindou, et que je lui ai dit non, je n'ai qu'un maître européen, c'est Adolf Hitler, il me dit, oh, lui, c'est une incarnation du dieu Vishnu. Vishnu représente le soleil. C'est un des membres de la trinité hindoue. C'est le dieu qui s'incarne de temps en temps, de nouveau et de nouveau, chaque fois que le monde va mal, chaque fois qu'il y a de l'injustice, chaque fois qu'il y a des graves crimes sur la terre et des crimes multipliés, il s'incarne et il combat la décadence, il combat contre le courant, Vishnu. Vishnu, Krishna est une de ses incarnations. Le Bouddha serait-il encore une de ses incarnations? Satyananda Swami considérait Adolf Hitler comme une incarnation de Vishnu. Je trouvais que c'était très touchant, cet hommage de l'Inde, l'un des rares pays à tradition aryenne dans l'Orient. Il m'a dit ça en 1936, quand je me suis jointe à la Hindu Mission pour combattre justement en Inde les théories et les philosophies égalitaire et universel au nom de l'hindouisme. Ce sont donc les valeurs éternelles que le Führer a défendues. Par exemple, il était contre les mixtures de races. Pourquoi? Parce que selon les lois de la vie, qui sont les mêmes partout, non seulement dans tous les pays de la Terre, chez les nègres, aussi bien que chez nous, les Aryens. La preuve, c'est qu'il y a des nègres qui ne veulent pas de mixture de race. Mais elles sont les mêmes dans toutes les planètes habitées. Et je ne sais pas combien il y a de planètes habitées. Certainement pas dans notre système solaire. À part nous, les autres planètes du système solaire, elles sont ou trop chaudes, ou trop froides, ou trop loin du soleil pour être habitées. Mais il paraît qu'il y en aurait au moins une sur 1 million. Comme il y a des milliards de soleils que nous voyons, la Voie lactée, c'est des milliards de soleils, il y a bien quelques planètes habitées dans une de celles qui tournent autour de ces soleils.